Le journal avec David Sanchez, bonjour.
Bonjour à tous. Les Neuchâtelois auront certainement leur mot à dire sur l'avenir de la H18. Le comité référendaire opposé au contournement est de la Chaux-de-Fonds indique avoir récolté suffisamment de signatures. Nous reviendrons sur la visite d'Ignacio Cassis à la Commission européenne à Bruxelles, la première depuis le rejet de l'accord cadre. Sabrina Jacquet est prête à défier la numéro 1 mondiale aux Jeux Olympiques. La badiste chaudefonnière participe à ses 3e Olympiades dès vendredi à Tokyo. Elle aura fort à faire dans sa poule qui comprend la meilleure joueuse au monde. Du côté de la météo, toute la journée s'annonce bien ensoleillée avec des températures estivales. Quelques cumulus se développeront principalement sur les crêtes. Les niveaux des lacs de Neuchâtel et de Bienne restent très hauts et ne vont pas s'abaisser sérieusement dans l'immédiat. Il faudra compter au minimum 3 à 4 semaines avant que les lacs retrouvent leur niveau saisonnier usuel. C'est en substance ce qu'annonce la cellule de crise Orcan dans un communiqué il y a une heure. Pour des questions de sécurité, l'interdiction de naviguer sur le lac de Neuchâtel est toujours en vigueur. La baignade et les activités subaquatiques sont également toujours interdites, mais des analyses d'eau sont en cours pour une éventuelle autorisation de la baignade dans les prochains jours. L'avenir du contournement de la H18 à la Chaux-de-Fonds se jouera probablement dans les urnes. Les référendaires annoncent avoir récolté les 4500 signatures valables. Les paraphes seront déposées jeudi à la chancellerie d'État qui devra encore les valider. Solidarité Neuchâtel, la Grève du Climat, les Jeunes Verts Neuchâtelois et Greenpeace Neuchâtel estiment que ce projet, devisé à 186 millions de francs et validé par le Grand Conseil, est démesuré. Ce contournement avait pourtant été validé en 2016 par 80% de la population neuchâteloise dans le cadre de la votation Mobilité 2030. Chloé Dutoit, membre des Jeunes Verts Neuchâtelois.
J'ai pas l'impression qu'on aille à l'encontre d'une décision populaire dans le sens où les mentalités ont évolué depuis, il y a passablement de choses qui se sont déroulées. Et puis, on voit également que finalement, ce projet, maintenant, il a été présenté par le Conseil d'État de manière un peu scabreuse, si je peux utiliser ce terme, avec typiquement des augmentations du trafic dans certaines rues de la Chaux-de-Fonds qui sont passablement cachées à la population. Donc, nous, on souhaite vraiment qu'il y ait un débat public qui soit possible. Et on estime que Mobilité 2030, certes, a été acceptée par la population, mais que ce projet, il faut absolument que les gens se rendent compte de ce qui se cache réellement derrière.
Pour vous, ce qui se cache derrière, c'est du trafic qui va être dévié sur d'autres rues qui sont également dans le centre?
Oui, absolument. Il y a passablement d'exemples. Typiquement, la rue Numadrois avec 83% d'augmentation de trafic. La rue de la Charrière également à plus de 60%. Pour nous, c'est vraiment des chiffres qui manquent actuellement dans le débat public. Nous, on a essayé de les amener en interpellant justement les habitants et les habitantes de la Chaux-de-Fonds à ce sujet-là. Et on a vu que ça a marché. C'est pour ça qu'on a réussi notamment à récolter assez de signatures. C'est que les gens, en fait, se sont rendus compte qu'on leur promettait un projet finalement presque de mobilité douce, alors qu'en réalité, on arrive à une externalisation journalière d'uniquement 6000 véhicules, ce qui est vraiment ridicule, si on peut dire ça comme ça, pour une dépense de 186 millions de francs.
De son côté, le Conseil d'État reste convaincu de la nécessité du projet de contournement pour l'attractivité de la Chaux-de-Fonds. Il regrette le retard qu'engendrera ce référendum. Le Conseil d'État en charge du dossier, Laurent Favre.
Oui, malheureusement, c'est un coup de frein, c'est plusieurs mois perdus sur un projet majeur pour renforcer l'attractivité résidentielle, économique, commerciale de la ville de la Chaux-de-Fonds. C'est un objectif majeur du Conseil d'État, comme on le fait au LOC, avec le soutien de la Confédération et son contournement. Eh bien, notre vision est aussi de réaliser en est de la Chaux-de-Fonds un contournement en sortant le trafic de transit, en limitant bien sûr largement les nuisances. Et là, nous avons un coup de frein à un projet de grande importance. On le regrette, mais on saura, je pense, largement convaincre la population neuchâteloise de l'importance de réaliser ce contournement. Les partis politiques au Grand Conseil ont largement soutenu le projet. Les ONG, dont l'AT également à partir de là, avec la ville de la Chaux-de-Fonds, pensons avoir en main un projet de forte qualité pour convaincre.
Un dossier proposé par Sonia Bernauer-Mia et Sarah Massy. Le référendum sera officiellement déposé jeudi à la chancellerie d'État. Il sera accompagné d'une motion populaire. Ce texte demande que la part cantonale de 73 millions de francs prévue pour le projet de contournement soit attribuée à des projets de mobilité collective dans le haut du canton. Le ministre des Affaires étrangères Ignacio Cassis et la négociatrice Livia Le sont à Bruxelles ce mardi, 2 mois après le rejet par le Conseil fédéral de l'accord cadre avec l'Union européenne. Ils ont rendez-vous avec les influents membres de la Commission européenne, Josep Borrell et Johannes Hahn. Notre correspondant à Berne, Serge Jubin, nous explique ce qu'il faut attendre.
À peu près rien, il s'agit d'un simple échange de vues, reconnaît lui-même le département fédéral des affaires étrangères. Il n'en sortira donc pas grand-chose, mais il s'agit pourtant d'un rendez-vous important, le premier de l'après-rejet de l'accord cadre par le Conseil fédéral. On se regarde désormais en chien de faïence. L'Union européenne a appliqué ce qu'elle avait annoncé en cas de refus de l'accord. Pas d'actualisation de la reconnaissance des produits technologiques médicaux et éviction de la Suisse du plan de recherche Horizon 2027. Le dossier de la recherche est le plus urgent à traiter. La Suisse doit faire un geste, devrait être le déblocage du 1,3 milliard de francs de cohésion destiné aux nouveaux pays de l'Union européenne. Mais Ignacio Cassis n'a pas le chèque avec lui. Il doit retourner devant un Parlement suisse qui risque de ne pas le libérer si facilement, l'UDC est contre et le reste de la droite veut des garanties européennes. Ignacio Cassis risque en outre de découvrir qu'on voit la Suisse avec un nouvel œil à Bruxelles, qu'elle n'est plus forcément un partenaire loyal et fiable, qu'elle n'est qu'une profiteuse. Avec son approche égocentrée de sa relation avec l'Europe, la Suisse risque de découvrir qu'un fossé post-26 mai s'est creusé à Bruxelles.
Et la secrétaire d'État Martina Hirayama a participé hier à la réunion biannuelle des ministres européens de la recherche et l'innovation à Ljubljana. Les discussions ont notamment porté sur la mise en œuvre des objectifs du nouvel espace de recherche européen et sur la coopération dans le domaine, un domaine dans lequel la Suisse tient à montrer son implication. Les exportations suisses affichent des résultats records. Elles ont franchi pour la première fois la barre des 60 milliards de francs au deuxième trimestre 2021. La balance commerciale a bouclé sur un excédent de 11,5 milliards de francs, un chiffre jamais enregistré auparavant. La croissance des exportations s'explique pour les trois quarts par le dynamisme des produits chimiques et pharmaceutiques. Les ventes à l'étranger de métaux et de l'horlogerie ont également poursuivi sur leur lancée. Les exportations horlogères du mois de juin ont d'ailleurs dépassé les niveaux d'avant-crise. Les envois de garde temps à l'étranger ont cru le mois dernier de 71% sur un an pour atteindre les 1,96 milliards de francs, dépassant même de 12,5% les niveaux de 2019 à la même époque. Au moins 430 migrants ont traversé la Manche hier pour se rendre au Royaume-Uni. C'est un record selon le ministère britannique de l'Intérieur. Il intervient alors que le Parlement examine le projet de durcissement du système d'asile britannique. Selon la BBC, près de 8000 personnes réparties sur environ 345 bateaux ont rejoint les côtes anglaises depuis le début de l'année. Les émissions mondiales de CO2 devraient atteindre un niveau jamais vu d'ici 2023 et ce n'est pas près de s'arrêter selon l'Agence internationale de l'énergie. En cause, la trop faible part que les plans de relance liés au Covid consacrent aux énergies propres. Les États ont débloqué des sommes sans précédent pour affronter la pandémie, mais à peine 2% de ce montant sont allés à la transition en faveur des énergies propres selon l'organisme. La tendance est particulièrement alarmante dans les pays en développement et émergents. Le rebond de la demande électrique trouve sa réponse dans le charbon plutôt que dans le solaire ou l'éolien. Les milliardaires à la conquête de l'espace. Après Richard Branson il y a 9 jours, c'est Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui va vivre quelques minutes d'apesanteur. Il embarquera avec lui 3 autres personnes dans sa fusée New Shepard. Décollage prévu à 15h aujourd'hui. Les précisions d'Anthony Montandon.
Le vol culminera à 106 km d'altitude, juste au-dessus de la limite officielle entre l'atmosphère et le vide. Mais il ne s'agira pas d'un vol orbital, à peine quelques minutes aux confins de l'espace, puis retour vers la Terre. À bord de la fusée, Jeff Bezos, donc, son frère et 2 autres personnalités hors du commun. Tout d'abord, Wally Funk, pionnière de l'aviation et de l'aérospatiale américaine. Elle a 82 ans et deviendra la personne la plus âgée à être allée dans l'espace. Et puis il y aura aussi l'astronaute le plus jeune de l'histoire, Oliver Demen, 18 ans, qui rêve de travailler un jour dans le secteur spatial.
Le décollage est donc prévu à 15h. 2 autres vols sont planifiés par Jeff Bezos cette année. Il compte en développer davantage en 2022.
12h24 sur RTN.
Sport. C'est un faux départ en Challenge League de football prévu dimanche pour la première journée du championnat. La rencontre entre Schaffhouse et Kriens est reportée à une date indéterminée en cause des cas de Covid à Kriens. Le coach lucernois Davide Morandi ne dispose pas d'un effectif suffisant pour ce match. Neuchâtel Xamax entamera pour sa part sa saison vendredi à domicile contre Aro. Le coup d'envoi du match est programmé à 20h30. plus que quelques jours avant les Jeux Olympiques de Tokyo. La grand-messe du sport d'été commence vendredi avec la cérémonie officielle. Au sein de la délégation suisse, 116 athlètes se rendent au Japon pour porter haut les couleurs nationales. Et les Jeux partiront sur les chapeaux de roue pour Sabrina Jacquet. La badiste neuchâteloise qui va disputer 3 matchs de poule commencera la compétition avec un duel face à la numéro 1 mondiale, la taïwanaise Tai Tsu-ying. Elle revient sur ses adversaires. Sabrina Jacquet.
Je peux répondre un peu plus concrètement vu que j'ai le tirage au sort qui n'est pas des plus favorables, mais finalement je me réjouis vraiment énormément de tous ces matchs. Puis quand j'ai vu le tirage au sort, je me suis dit oula, c'est compliqué mais c'est génial. Je joue contre la numéro 1 mondiale, donc c'est pas tous les jours qu'on a la chance de faire ça. Je vais essayer d'aller la titiller, puis on verra ce que ça donne. Et après j'ai deux gros matchs, une joueuse française, une joueuse vietnamienne, donc qui sont les deux numéro 1 de leur pays. Puis voilà, elles sont un peu de mon niveau au ranking, on se tient un peu dans un mouchoir de poche, donc ce sera vraiment des gros matchs. Voilà mon but premier. Ce serait peut-être d'aller déjà gagner un match ou bien d'être deuxième de poule, ou bien on sait jamais ce qui peut se passer et puis vraiment faire l'exploit, mais ça reste très compliqué.
La numéro 1 mondiale, c'est un sel particulier.
Moi, j'ai jamais été autant fort que quand j'étais pas favorite, quoi. Parce que dans le rôle de favorite, c'est plus compliqué en général, parce qu'on doit vraiment aller gagner. Et quand on n'est pas favori, on peut tout donner puis regarder ce qui se passe. Et c'est là que j'ai fait la plupart du temps mes meilleurs matchs. C'est vrai que c'est une joueuse incroyable, une légende du badminton, on peut dire. Et voilà, une technicienne aussi dans son type de jeu qui me correspond pas toujours, parce que j'aime bien les filles qui jouent vite, mais elle est plutôt technicienne. Puis bah, faudra voir comment j'arriverai à m'adapter contre elle.
Sabrina Jacquet qui répondait à Yann Esler. Deux autres Neuchâtelois font partie de l'équipe helvétique envoyée aux Jeux Olympiques, le cycliste Valère Thiébaud et le cavalier Brian Balziger. Enfin, Marianne Faton peut se réjouir, le ski alpinisme sera inscrit pour la première fois au programme des Jeux Olympiques d'hiver en 2026 à Milan. Cette décision a été prise à l'unanimité aujourd'hui par les membres du CIO à la demande des organisateurs italiens. Il n'y a en revanche aucune garantie que cette initiative sera reconduite ultérieurement.
On va prendre des nouvelles du temps, de la météo, des plages sur RTN. Ce sera les annonces naissances et puis retour de la musique avec Camila Cabello et Shawn Mendes. Et avec cette musique, on va pas se gêner de profiter du soleil et de cette belle semaine. Cet après-midi, il fera entre 26 et 27 degrés autour du lac de Neuchâtel, 24 dans les vallées et 22 degrés dans les montagnes. De mercredi à vendredi, belles conditions, bien ensoleillées en toute région avec quelques voiles d'altitude par moment. Par contre, dès samedi après-midi, le temps s'annonce plus instable et humide.